Jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
Changement d'horaire pour le Jardin Bleu de France Bleu Armorique. Tout cet été, effectivement, ce sera de 8 à 9 heures avec notre excellent jardinier que j'ai plaisir à retrouver. Il s'agit de Philippe Munier. Bonjour Philippe.
Bonjour Félix, bonjour à tous.
Alors Philippe, première question, cette chaleur, est-ce qu'elle a créé quelques dégâts dans nos jardins? Et si oui, est-ce grave, Philippe?
Oui, alors il y a eu des problèmes, hein, et très souvent, malheureusement, quand un arbuste a pris un gros coup de chaud, et il y a eu des gros coups de chaud, eh bien, il meurt de manière quasiment irréversible parce que ça provoque ni plus ni moins que des bulles d'air dans les canaux de circulation, hein, et donc ça bloque la circulation de la sève et l'arbre meurt ou l'arbuste meurt. Donc il y a pas mal de dégâts un peu partout en Bretagne, j'ai eu l'occasion malheureusement de le constater. Bon, bah, c'est comme ça, va falloir s'y faire. Le changement climatique, et bah, ça provoque ça. Et donc, si on ne fait rien contre, et bien, et c'est pas que à l'État de faire contre, hein, c'est chacun de nous au quotidien qui avons à lutter contre le changement climatique. Et là, on arrivera à faire quelque chose si tout le monde s'y met. Donc, voilà, si on ne fait rien, bah, on continuera à voir nos arbres crever. Ça fait partie du jeu, tant pis.
Et surtout, peut-être nos enfants à long terme. Philippe, alors ça, la question hein, qu'on se pose, a-t-on le droit, oui ou non, d'arroser, bien sûr, si on a un puits personnel, une source d'eau personnelle, oui, mais autrement, a-t-on le droit d'arroser actuellement?
Bah, en fait, là encore, c'est un minimum de bon sens. Les plantes, globalement, on arrose 10 fois trop nos plantes. Hein, ça, de manière, c'est clair, et même les légumes, les gens qui disent « Ah oui, mais si on veut avoir des beaux légumes, il faut qu'ils soient arrosés », c'est faux. C'est faux, moi je n'arrose quasiment jamais. Hein, c'est vraiment, si j'utilise dans un potager d'un peu plus de 100 mètres carrés, si j'utilise 80 litres d'eau tous les 3 jours, c'est vraiment le bout du monde. Je le mets dans une poubelle, donc je sais que ma poubelle elle fait 80 litres, hein, c'est de l'eau de source. On arrose beaucoup, beaucoup trop. Par contre, ce qu'il faut, c'est aimer son sol, bichonner son sol, parce qu'un sol qui a été bien travaillé, qui a été bien aimé, qui a été bien nourri, à qui on a amené de l'humus, ce sol-là, il va être capable de stocker 20 fois son poids en eau. Ce qui fait que ce sol-là, c'est une éponge. Alors si cette éponge-là, en plus, on la protège avec une couche qui empêche l'évaporation, qui s'appelle un paillage, eh bien, ça permet de garder de l'eau dans le sol pendant plusieurs semaines, et ce qui fait qu'on a des légumes qui se développent tout à fait correctement, un petit peu moins gros peut-être, mais 10 fois plus goûteux, et qui n'ont pas eu besoin d'arrosage. Donc réfléchissez avant d'arroser, ça sert en général à rien d'arroser hein, une plante, si le sol est nu, si la terre est durcie, battue, croûtée, hein, donc c'est vraiment de l'eau perdue, du temps perdu, et l'eau, je rappelle que c'est pas l'eau de votre robinet, c'est pas l'eau de votre puits, c'est l'eau de tout le monde, hein, elle est là, la quantité n'a pas varié depuis la création du monde, c'est toujours la même eau qu'on boit. On boit du pipi de dinosaure ou du pipi de soldat de Napoléon, comme vous voudrez, mais de toute façon, c'est la même quantité d'eau depuis que la Terre a été créée.
Merci Philippe pour tous ces conseils. Alors vous pouvez nous appeler 02 99 67 35 35 pour poser vos questions à Philippe, et nous accueillons Yvette qui nous appelle de Saint-Brice-en-Cogle. Bonjour Yvette.
Oui, bonjour Philippe Meunier, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Ma question est, j'ai des artichauts, je les perds chaque année parce qu'ils sont remplis de grosses fourmis noires, mais alors un fourmillage à chaque pied, et ils meurent.
Oui, alors c'est dû effectivement à la qualité d'architecte des fourmis, parce que les fourmis, quand elles font leur fourmilière, elles sont pas folles, elles veulent pas que de l'eau puisse venir noyer leurs œufs et leurs larves, donc elles mettent tout en place de manière à empêcher l'eau de rentrer dans la fourmilière. Le problème, c'est que quand elles font la fourmilière dans le pied d'une plante, et bien elles empêchent l'eau d'accéder à la plante, et donc la plante meurt de soif. Alors la solution, c'est dès que vous apercevez les fourmis, dès que elles sont repérées, eh bien, c'est de leur donner à boire largement plus que pour le coup. Hein. Allez, profitez-en. Je ne le dirai pas souvent. Et puis, en général, c'est au printemps que ça se passe. Lorsque les fourmis arrivent, vous leur mettez une grande quantité d'eau pour noyer la fourmilière. En général, si vous faites ça 2 soirs de suite, le 3e soir, elles sont parties. Hein. Donc, il y a ça. Il y a aussi des répulsifs. Ils n'aiment pas la lavande. Donc, l'huile essentielle de lavande, on peut en mettre un petit peu, par exemple, dans l'eau qui vous sert à les noyer. Vous pouvez mettre aussi du l'huile essentielle de citron, a priori, qui serait assez bon répulsif, mais simplement de noyer une fois ou deux maxi la fourmilière, en général, ça suffit à les faire partir.
Voilà Yvette.
Et n'oubliez pas de diminuer votre radio.
Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme nourriture et quand?
Bah les artichauts sont des plantes très gourmandes, hein, donc il faut vraiment, si vous voulez avoir des belles récoltes, il faut leur donner à manger. Et la meilleure période, bah, c'est un très bon compost au printemps, juste après le dédrageonnement. Hein, vous faites votre dédrageonnement traditionnellement en Bretagne Nord, c'est entre la Sainte-Catherine et la entre la Saint-Patrick et la Saint-Yves, donc entre le 17 mars et le 19 mai, eh bien, une fois que vous avez dédrajeuné, vous faites un très bon apport de compost à vos artichauts et vous le rendront en faisant des belles grosses têtes délicieuses.
Merci Yvette. Dans un instant, nous accueillons Jean-Michel, mais place à l'information puisqu'il est 8h15. L'essentiel de l'actualité, Brigitte Hugues, est d'abord le compte pénibilité qui sera bientôt transformé.
Le Premier ministre Édouard Philippe a proposé hier une nouvelle mouture rebaptisée compte de prévention. Seuls 6 critères de pénibilité sont retenus pour partir plus tôt à la retraite. Des détails dans le journal de 8h30. Un nouveau sommet sur le climat en décembre à Paris, c'est ce qu'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron à l'issue du G20 qui s'est tenu pendant 2 jours à Hambourg, réunion entre les dirigeants des grandes puissances mondiales. Première convention de la République en marche hier à Paris, le mouvement doit se transformer en parti. Réuni en Conseil national, le PS, lui, s'est doté d'une nouvelle direction de 16 membres, 8 hommes, 8 femmes, qui fait la part belle à la nouvelle génération. Deuxième victoire française sur le Tour de France, Lilian Calmejade s'est imposé hier en solitaire à la station des Rousses. Il portera le maillot du meilleur grimpeur aujourd'hui entre Nantua, toujours dans le Jura, et Chambéry, dans les Alpes. Retour sur sa victoire avec Anthony Rimbaud.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 9h.
On retrouve le Jardin Bleu en compagnie de Jean-Michel qui nous appelle d'Oraison. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour messieurs.
Oh, on s'appelle Félix, il y a Félix au micro. Félix, et Philippe.
Oui, hein, qui est notre... Philippe, ouais.
Voilà.
Bonjour Félix, bonjour Philippe.
Jean-Michel, Oraison, c'est pas en Bretagne ça?
Non, c'est entre Manosque et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence.
Sisteron, ah ben dites donc, et vous nous écoutez sur Internet?
Tout à fait.
Voilà,
tout
eh bien je vous laisse poser votre question, Jean-Michel à Philippe.
Oui, merci. Donc c'est à propos d'un pommier reine de Rainette qui est tout jeune et qui est plein de pommes. Est-ce que ça peut fatiguer le pommier? Est-ce que ça peut faire ployer, déformer les branches? Est-ce que je dois laisser toutes ces pommes?
Alors, d'une manière générale, lorsque l'on a des fortes, et ça a été le cas cette année un peu partout en France, hein, des fortes floraisons avec du temps sec et calme, en général, il y a des très belles pollinisations derrière, donc il y a beaucoup de fruits. Quel que soit le fruit, il faut éclaircir le plus tôt possible. Plus tôt vous éclaircirez, hein, donc l'idéal, c'est de commencer à éclaircir quand la pomme est grosse comme une groseille, donc, parce que maintenant, elles doivent commencer à être plutôt grosses comme des balles de ping-pong, voire même plus grosse, et donc plus tôt on va éclaircir, plus on va permettre à l'arbre de donner un minimum d'énergie pour un maximum de résultats, et donc on va pas le fatiguer pour l'année prochaine. Surtout Reine des Rainettes qui a une sale tendance à ce qu'on appelle l'alternance, c'est-à-dire qu'elle a tendance à faire une année une grosse production, l'année suivante elle se repose, et des fois ça lui arrive même de se reposer 2 ans de suite quand vraiment la production était très forte. Donc c'est pas bon pour cette année, bah, enlever quelques pommes. Quand vous avez des bouquets de 3, 4, 5 pommes, ça arrive encore, hein. Gardez-en une, deux maximum par bouquet. Les autres, ne les perdez pas. La gelée de pommes vertes, c'est tout à fait délicieux. Je vous conseille d'en faire, c'est vraiment super sympa. Ou alors vous faites du jus de pommes vertes, ça remplace le vinaigre, hein. C'est nos anciens au Moyen-Âge consommaient du jus de raisin vert et du jus de pommes vertes pour remplacer le vinaigre. Et c'est vraiment tout à fait délicieux. Ça fait des choses, pas des salades parfumées en diable. C'est vraiment très très intéressant. Et vite de perdre.
Donc il y a effectivement des grappes de 3 pommes, j'en enlève 2 sur 3. Quoi.
Oui, au minimum, on va dire au minimum, en visant une, moi je prends toujours en compte, surtout dans votre secteur, la possibilité d'une grosse averse avec de la grêle qui ferait tomber la deuxième. Comme ça, il vous en restera une quand même pour.
D'accord.
Ça ne sera pas une poire pour la soif, ça sera une pomme pour votre hiver.
Et très rapidement, j'ai un mûrier platane avec une branche qui pousse à la mi-hauteur du tronc. Est-ce que je peux la couper?
Oui, il n'y a aucun problème. Hein. Je suppose qu'elle est encore toute jeune. C'est
Elle est
pas
toute
une vieille
jeune,
branche.
oui,
Oui.
mais il faut mettre un produit cicatrisant ou quelque chose comme ça
Surtout pas.
après.
Surtout pas. Les cicatrisants, c'est pire que tout. Ça fait tout sauf cicatriser. Ça fait pourrir. Donc, non, non. Vous coupez avec un sécateur parfaitement affûté, parfaitement désinfecté. Éventuellement, vous mettez un tout petit peu d'argile sur la plaie de taille juste après, d'argile sèche, hein, juste sur la plaie de taille juste après la coupe et c'est terminé. Ça suffira largement.
D'accord. Merci bien beaucoup. Et puis bonjour, bonjour à mes amis bretons.
Merci Jean-Michel qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence et qui est originaire de Bruxelles. Merci beaucoup Jean-Michel, à très bientôt, bon dimanche. Nous accueillons Yann qui nous appelle lui Derki. Bonjour Yann.
Oui, bonjour à vous deux.
Votre question, Yann,
bonjour. Alors voilà, moi j'ai un citronnier qui est dans un pot. Il est sur une terrasse couverte, hein. Et donc le citronnier fait des fleurs, les citrons commencent et puis en général ils tombent tous.
Ah.
Alors je voulais
Alors.
savoir si soit si je l'arrose de trop ou pas assez, si je mets assez d'engrais ou pas.
Alors, les agrumes, d'une manière générale, sont des plantes un petit peu. On va pas dire exigeante, si un petit peu quand même, mais qui sont globalement suffisamment, comment dirais-je, sympathiques pour nous donner des belles productions si on s'en occupe un petit peu. Donc effectivement, la première chose c'est que une agrume, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'orange citron, pamplemousse et compagnie, kumquat, et bon, c'est tous pareil. Il leur faut en permanence une terre fraîche au pied. Jamais détrempé, jamais desséché. Donc il ne faut pas arroser trop, il ne faut pas arroser pas assez, il faut arroser un tout petit peu. Ça fait partie des rares plantes qui ont besoin d'être arrosées un petit peu régulièrement. Hein, donc il faut toujours que ça soit frais. Donc grosso modo, on va apporter sur un gros pot, on va apporter 3-4 litres toutes les semaines, ça suffit largement. S'il fait très chaud, deux fois la semaine, mais voilà. Et on trempe le doigt, si c'est encore frais dans les 3 premiers centimètres, c'est bon. Si ça commence à être à dessécher un petit peu au deuxième centimètre, il faut redonner à boire à la plante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont des plantes relativement gourmandes, donc qui ont besoin d'avoir un apport d'engrais entre mars et octobre régulier. Il y a des engrais organiques agrumes qui sont tout à fait excellents. Hein, donc, allez dans votre jardinerie habituelle, leur demander engrais organiques, je précise, agrumes, de façon à nourrir correctement. Et puis la troisième chose qu'il faut faire attention, vous avez dit que la terrasse était couverte.
Oui.
Les agrumes sont des plantes d'extérieur, vraiment d'extérieur. Hein, donc si elles restent en permanence dans une terrasse couverte, la plante peut manquer de lumière et du coup ne mal former, enfin, mal se développer, mal polliniser ses fleurs. Et donc ça explique la chute du
Hop
très
là.
jeune fruit. Voilà, on va se faire
Pardon,
mordre, il
la
faut faire
terrasse est couverte, mais il est vraiment en bordure de terrasse, donc il a le soleil direct, et puis le toit, c'est un truc transparent, vous savez, donc là, de ce côté-là, je pense que ça, y a pas de souci. Mais voilà, donc je vais l'arroser peut-être, faire un peu plus d'attention à l'arrosage, et puis aller chercher comment. J'ai de l'engrais, mais je ne sais pas si c'est de l'engrais organique, il faut que je
Ouais,
regarde.
ben, si c'est pas de l'organique, ne l'utilisez pas. Vous bousillez la terre de votre citronnier au lieu de l'améliorer.
D'accord.
Voilà, Yann. Eh bien,
Ok, ben merci beaucoup.
les animaux sont réveillés là déjà ce matin,
Ah
Yann.
là, bah oui, là les coqs, en plus, ils s'appellent entre voisins, quoi, parce qu'on y en a, il y en a chez le voisin aussi des coqs, donc tout le monde se cause.
Ah ben, au moins il y a de la vie. Merci,
Voilà.
Yann. Bon
Oui, au
dimanche.
revoir, bonne journée. Merci.
Au revoir. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 02 99 67 35 35 pour poser vos questions à Philippe Mignet concernant le jardinage d'été. Tout cela, c'est sur France Bleu Armorique. Et c'est jusqu'à 9h. Rita Mitsouko, vous connaissez, Philippe? Ça vous dit quelque chose?
Oh oui, oh
Alors,
oui.
Vous avez dansé, vous dansez là-dessus. Marcia Baila. Rita Mitsuko, Marcia Baila.
La Terre, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins avec leurs promos travaux d'été, ils vont pas casser la baraque. Et puis il y a La Paire avec ses prix planchers à tomber.
Jusqu'au 7 août, c'est l'opération travaux d'été chez La Paire, avec par exemple jusqu'à 25% de remise sur tous les carrelages vendus au mètre carré.
Moins 25% sur les carrelages. La Paire naturellement, il y en a pas deux.
La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
Jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique. Notre expert jardin est là pour vous.
8h27 sur France Bleu Armorique, nous accueillons Claudine de Moncontour. Rapidement avant les infos, Claudine, bonjour, votre question.
Oui, bonjour Félix, bonjour Philippe.
Bonjour.
C'est pour les melons, savoir comment on doit les récolter. C'est soit, est-ce qu'il faut attendre qu'ils tombent tout seuls ou faut les cueillir avant maturité?
Alors, il faut c'est ça toute la difficulté de la récolte du melon, c'est qu'il faut le cueillir à maturité, hein, donc pas avant, parce que sinon il va mettre très longtemps à finir de mûrir. Donc, on voit que le melon est prêt. D'abord, on le sent quand on rentre. Si, je ne sais pas s'il est sous tunnel ou s'il est en extérieur.
Oui,
quand on rentre. Voilà, quand on rentre dans le tunnel, on sent que le melon est prêt parce que l'odeur du melon est dans la serre. Donc là, déjà, ça, c'est un bon, très bon indicatif. Et en plus, le melon qui est prêt, lorsque vous touchez légèrement le pédoncule, la partie qui l'attache à la plante, vous devez voir le tour du pédoncule doit très légèrement se décoller du melon. S'il est comme ça, il est pile poil, il est impeccable. Vous le coupez, vous le mettez à la cuisine et il sera bon pour ce midi. Et vous le dégustez et avec plaisir, bien frais, un petit peu de cannelle, c'est un petit coup de Porto. Parfait. Bon, donc voilà. Et sinon, si vous l'avez cueilli un petit peu trop tôt, il faudra attendre 2-3 jours. Et effectivement, là aussi, c'est souvent à l'odeur qu'on s'aperçoit qu'il est mûr ou pas.
D'accord.
Voilà. D'accord. Allez-y, Claudine. Oui, pardon.
Oui, je voulais juste vous remercier.
Ah bon, très bien. Bon dimanche à vous. Et puis, il y a du melon ce midi au menu, Claudine, ou pas?
Ce soir.
Ce soir, d'accord. Ok. Écoutez, bon appétit et très bon dimanche à vous. Au
merci
revoir.
À vous également. Au revoir, bonne
merci,
journée.
Merci, au revoir. Dans un instant, ce sera Charles qui, de l'Armor Plage qui nous posera une question sur les fruits et sur les potirons. On va se quitter quelques instants puisque c'est l'heure de l'information. On va retrouver l'information. Le temps de boire un petit café. Philippe, vous êtes café, vous êtes thé, vous?
En ce moment, je suis café, mais il y a des périodes thé aussi, il y a des périodes tisane, ça dépend. Il y a des périodes.
Oui, et vous, dans votre jardin, vous avez des infusions, puisque vous savez tout faire.
Ah oui, les infusions, elles sont du jardin. Il y a du thym, il y a de la mélisse, il y a de la citronnelle, il y a de l'hysope, il y a plein de choses. Hein. J'en oublie quelques-unes, forcément, du romarin, évidemment, de la sarriette, enfin bref.
C'est tout ce qu'il y a ?
Non, il y en a encore. Il y en a encore. Je ne vous le dirai pas toutes parce qu'il n'y a pas que des infusions, il y a aussi toutes les aromatiques. Parce qu'une cuisine sans aromatiques, ce n'est pas de la cuisine. Et puis un jardin sans aromatiques, ce n'est pas un jardin. Alors, vous voyez,
tout de suite, Philippe. On retrouve les informations puisqu'il est 8h30.
Jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique, notre expert jardin est là pour vous.
8h30, donc on va retrouver l'information et juste après vous pouvez nous appeler bien sûr pour poser vos questions sur le jardinage, ce sera avec beaucoup de plaisir. Il est 8h30, c'est l'heure du journal qui est présenté par Mélodie Perrin.
Et c'était peut-être sous la pluie après la galère des bouchons hier. Reportage en Charente-Maritime où il n'a pas fallu traîner pour planter la tente. La réforme du compte pénibilité annoncée hier par le Premier ministre. De quoi satisfaire le patronat, on verra pourquoi. Et puis le Tour de France, 9e étape, aujourd'hui réservée aux grimpeurs. Il va falloir avoir les mollets parce que c'est l'étape la plus dure de ce tour, nous explique son directeur. Le temps.
Avec un temps qui sera nuageux et on attend même quelques pluies, c'est ce que prévoit Météo France, des pluies qui arriveront par le sud-est de notre Bretagne, un temps très orageux.
Les vacances d'été ont donc débuté pour de nombreux Français sous la pluie, peut-être ce matin, mais avant de profiter des vacances, après les bouchons, il faut encore planter la tente si vous avez choisi l'option camping. Reportage de Nathan Mergier à Foura, en Charente-Maritime.
À peine arrivé, Jean-Étienne est déjà à genoux sur la pelouse. Il enfonce les premiers piquets de sa tente et il faut faire vite.
Il faut tout monter avant que l'orage arrive pour rien que s'envole. Oh, dans un quart d'heure, ça sera fini.
Et à l'emplacement juste à côté, on retrouve des Niortais, Sylvie et sa famille, arrivés eux en fin de matinée. Mais c'est bon, là, on en est aux finitions.
Je suis en train de monter mon auvent et de mettre de l'électricité. Voilà, pour les petites soirées sympas.
Ça prend combien de temps tout ça ? L'installation complète de la caravane? Quelques heures si on veut être bien installé pour quelques temps. Mais après, une bonne douche et puis c'est parti.
Il faut dire qu'il fait chaud, 30 degrés à 17h, alors forcément certains ont déjà les pieds dans l'eau à la piscine. C'est la première baignade de l'été au frais pour Cécile, originaire de Bourgogne.
L'eau elle est bonne, elle est bien chaude, tout va bien.
Et sous les yeux d'Alison, la surveillante du bassin pour l'été, elle aussi prend ses marques.
Ça va, ils sont très bien élevés, ils sont calmes. Pour le moment, il n'y a pas encore grand monde, donc ça va.
Et pourtant, à l'accueil, cela ne s'arrête pas vraiment.
C'est une très bonne première journée.
Isabelle Moreau est la responsable du camping.
Ça bouge en permanence, les arrivées, les départs, mais là, beaucoup, beaucoup d'arrivées.
Un camping qui affiche déjà quasi complet pour l'été.
Nathan Mergy pour France Bleu et aujourd'hui encore des arrivées possibles. La route sera plus tranquille, sévère, sauf dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où la journée est classée orange par bison futé. En revanche, pas mal d'orages sur une bonne partie de la France à prévoir, même si l'alerte a été levée pour le sud-ouest. Des orages qui ont fait quelques dégâts hier dans le Puy-de-Dôme, la Creuse, les Landes et en Haute-Vienne où un millier de foyers sont encore privés de courant ce matin. Fin de l'alerte canicule aussi. Le livret A pourrait être bientôt taxé selon le journal du dimanche. Le gouvernement réfléchit à revoir la fiscalité du placement préféré des Français dont les intérêts sont jusque-là exonérés d'impôts. Le gouvernement qui a promis de ne pas toucher aux impôts qui vont baisser l'an prochain, c'était prévu par François Hollande, c'est confirmé par le Premier ministre. Édouard Philippe a annoncé la baisse de 7 milliards d'euros via des crédits d'impôts. Autre annonce du Premier ministre, la réforme du compte pénibilité. Il ne s'appellera plus comme ça, mais compte professionnel de prévention. Et il va être simplifié. Une promesse d'Emmanuel Macron. Solène Lehen, cette réforme prend en compte en fait les demandes du patronat.
Le patronat reprochait au compte pénibilité d'être, je cite, une usine à gaz, avec comme difficulté principale de quantifier, de mesurer la souffrance engendrée par les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les risques chimiques et la manutention manuelle de charge. Ces quatre points seront supprimés du nouveau compte, mais les salariés qui en souffrent pourront quand même partir plus tôt à la retraite en cas de maladie professionnelle. Les autres critères du compte pénibilité, qui faisaient davantage consensus, comme le travail de nuit, le bruit, les températures extrêmes, resteront eux pris en considération dans ce nouveau compte de prévention qui entrera en vigueur l'an prochain. Le financement également va changer. Les deux cotisations patronales créées spécifiquement seront supprimées. C'est une branche excédentaire de la Sécurité sociale qui financera celle dédiée aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Solène Lehen pour France Bleu. Ils rêvaient de rejoindre la terre promise mais ne l'atteindront pas. C'est l'histoire de ces 4554 juifs rescapés des camps, embarqués à bord de l'Exodus. En 1947, le bateau a quitté le port de Sète, direction la Palestine, sous mandat britannique. Les Britanniques y ont empêché que ce bateau accoste après une semaine de navigation car ils ne voulaient pas d'immigration illégale. 70 ans après, une plaque sera posée sur le môle Saint-Louis oui, à 7 ce matin, pour rappeler cette épopée. La cérémonie est à 10h30 en présence de survivants et de témoins que vous avez rencontrés, Sébastien Garnier.
En 1947, il y a beaucoup de bateaux dans le port de 7, mais l'Exodus ne passe pas inaperçu. Ce navire à vapeur de 98 mètres de long était prévu pour embarquer 700 passagers. Ils étaient 6 fois plus nombreux, se souvient Carmen Belli, une sétoise. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle se trouvait sur le quai avec son père.
Nous sommes arrivés devant ce bateau, plein de gens qui criaient, on aurait dit des grappes humaines, le monde qu'il y avait là-dessus, c'était insoutenable.
André Aversa, lui, était déjà charpentier de marine, il avait été missionné pour aménager le bateau.
On lui avait demandé de faire le maximum de chalis. Ce sont des couchettes les plus simples, on appelle ça des chalis. Sinon, c'est quatre planches avec deux montants et des planchettes pour faire, voilà.
Nous n'avions presque rien à manger, il était impossible de se laver, les toilettes c'était horrible, raconte Yosef Bajor, 15 ans, quand il est monté sur le bateau. On a pu vivre dans ces conditions car c'était très organisé, c'était très carré sur l'Exodus. Il n'y avait pas de dispute, tout le monde rêvait seulement d'arriver en Israël. Malheureusement, en arrivant à Haïfa, les passagers de l'Exodus seront transférés à bord de 3 bateaux prison, retour à la case départ. Mais leur épopée a marqué l'histoire et pesé sur le plan de partage de la Palestine quelques mois plus tard.
Le reportage de Sébastien Garnier pour France Bleu. Le Tour de France et cette deuxième victoire française hier pour la 8e étape. Lilian Calmejane s'est imposé en solitaire aux Rousses. Aujourd'hui, place aux grimpeurs. 3 cols classés à franchir entre Nantua et Chambéry. Peut-être l'étape la plus dure de ce Tour avec les kilomètres les plus pentus que nous détaille Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle.
Sur la trentaine de kilomètres d'ascension, il y en aura une vingtaine avec 10% de pente ou plus. Et cet enchaînement-là, entre le col de la Biche qui est inédit, le Grand Colombier qui va passer pour la première fois par la directissime, comme on dit, un vocabulaire d'alpiniste tellement serré, jusqu'à 22%, et puis ensuite le relais du Chac, le Tour de France n'a emprunté qu'une seule fois en 1974. Et ce jour-là, Raymond Poulidor avait distancé Eddy Merckx dans la montée. J'étais gamin, j'ai suivi ça, je m'en souviens naturellement encore. Bref, c'est fait pour les hommes forts, les montées et les descentes, parce que les descentes, surtout celles du relais du Chac, sont techniques et sinueuses. Il faudra être fort, il faudra oser, mais j'espère que ce qu'on a vu à la planche des Belles-Filles se confirmera en termes d'attaque osée.
Rendez-vous à 11h55 pour le départ de cette 9e étape et puis en volée, la France a remporté sa 2e Ligue mondiale de son histoire en s'imposant face au Brésil hier soir.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone. Jusqu'à 9h, mettez-vous au vert. C'est Jardin Bleu avec Philippe Munier.
Allez, retour au jardin sans plus attendre jusqu'à 9h. Donc, vous pouvez poser vos questions au 02 99 67 35 35. Et nous accueillons Charles qui nous appelle de l'Armor Plage. Bonjour Charles. Alors Charles, on va vous demander de baisser votre radio parce que là, ça va être assez compliqué.
Bonjour cher jardinologue et ami. Alors voilà ma question, j'ai planté 6 potirons espacés d'un mètre entre chaque, et ils ont très bien poussé, j'ai des feuilles magnifiques, plein de fleurs également, qui sont très belles aussi, mais hélas, aucun fruit, ça ne fructifie pas. Les fleurs donc s'épanouissent très bien, c'est très joli, et pourtant il y a des insectes dans le coin. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon bon Philippe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour ce problème?
Philippe.
Alors déjà, pour commencer, les potirons à 1 mètre de distance, c'est vraiment dur pour eux, parce que un potiron, ça aime prendre ses aises, c'est minimum 2 mètres en tous les sens, hein, donc il va falloir là bien les diriger pour qu'ils aillent tous dans le même sens et qu'ils ne risquent pas de se rentrer les uns dans les autres. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, les potirons sont des plantes qui ont les deux sexes séparés sur des fleurs différentes. Donc il faut regarder lorsque vous avez des fleurs, de quelles fleurs il s'agit. Il y a les fleurs mâles, il y a les fleurs femelles. Les fleurs mâles, elles sont en général relativement hautes, elles sont très verticales, et forcément, vu qu'elles sont mâles, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de forme du fruit sous la fleur, alors que la fleur femelle en général est plus petite, elle est beaucoup plus cachée dans le feuillage, et on voit bien qu'il y a l'ébauche du fruit, hein, c'est l'ovaire, qui est présent et qui, lorsqu'il y aura eu pollinisation, va se développer pour faire le fruit. Donc déjà, il faut bien repérer les deux sexes. C'est très très important parce que vous pouvez avoir des très très belles floraisons de fleurs mâles, mais s'il n'y a que des fleurs mâles, il n'y aura effectivement jamais de fruit. Hein, ça c'est clair, on sait très bien qu'on n'a jamais fait de bébé. Hein, donc... Une fois que vous avez constaté ça, il faut savoir que en général, quand la plante est dans des meilleures conditions possibles, elle fait des très grosses feuilles et plein de fleurs mâles. Dès qu'elle commence à souffrir un tout petit peu, elle se met à se dire qu'il faut peut-être se reproduire, faire des fruits, et dans ce cas-là, elle se met à faire des fleurs femelles. Donc il faut faire attention à, comment dirais-je, les courges ont besoin d'énormément d'eau, mais si vous les abreuvez en permanence, elles vont être trop bien, elles n'auront pas trop envie de faire des fleurs femelles. Donc de temps en temps, il faut absolument laisser sécher entre deux arrosages. J'ai bien dit laisser sécher, j'ai pas dit laisser crever de soif. Hein. Faut bien faire attention. Donc il faut qu'il y ait au moins un jour où la plante a un tout petit peu soif, où le feuillage commence à légèrement descendre. Il ne faut pas qu'il se retrouve à plat par terre. Hein. Légèrement le soir, il fait un petit peu la tronche. Et là, dans ces cas-là, vous savez qu'il faut réarroser immédiatement. Et dans ces conditions-là, vous allez inciter la plante à faire des fleurs femelles. Alors si vous êtes sûr qu'il y a suffisamment de bourdon dans le coin, ne faites rien. Sinon, vous pouvez très bien, en prenant un petit pinceau, allez, alors en général la floraison, l'épanouissement, il y a lieu entre heure solaire 8h et 10h, je dis bien heure solaire, donc entre 10h et midi, heure légale. Donc vous, avec un petit pinceau, vous allez récupérer sur la fleur mâle le pollen, c'est une jolie petite poudre jaune très 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 fine, et vous allez délicatement le poser sur la fleur femelle, hein, qui va immédiatement sur le style, vous allez voir le pollen se colle, et donc il va y avoir fécondation, et là vous serez sûr d'avoir des fruits, et en plus le gros intérêt de cette technique-là, c'est que on est sûr aussi d'avoir des fruits de la bonne variété. Si on a plusieurs variétés dans le jardin, ce qui arrive souvent, en général, on a 6-7 variétés. Je connais même des gens qui ont plus de variétés que ça dans le jardin de courges. Donc, et qui pollinisent à la main pour être sûr de récupérer des graines parfaitement identifiables et identifiées, pas des graines hybrides, hein, pas des fruits hybrides. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc laissez un petit peu sécher, donnez à boire régulièrement quand même, et puis éventuellement polliniser à la main, c'est rigolo à faire.
Bien, je vous remercie beaucoup, mon cher Philippe, et à bientôt. Bonne journée, Kenavo.
Kenavo, merci Charles, à très bientôt, au revoir. Christine nous appelle de Plérin. Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Oui, alors je me permets de vous appeler parce que nous avons un abricotier qui a 4-5 ans, des abricots du Roussillon. Il est très chargé cette année. Malheureusement, les abricots, avant de mûrir, se tachent sur le derrière. Enfin, ils pourrissent. Je voudrais savoir pourquoi.
Alors, j'ai grand-peur. Ils pourrissent comment? C'est des taches un petit peu circulaires.
Je vous entends pas très bien, là.
Ce sont des taches circulaires qu'il y a sur vos abricots, avec des petits points blancs. Et ils dessèchent complètement, c'est ça?
Non, ils
dessèchent. Ils pourrissent
sur le front, sur le cul, quoi.
D'accord. Donc, de toute façon, c'est une maladie due à un champignon. A priori, je dirais bien, quand même la moniliose, même si ça ne ressemble pas tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que là, c'est un petit peu tard. Lorsqu'on a des belles productions d'abricots, il faut savoir quand même que globalement, en Bretagne, l'air est un petit peu humide, même si que des années comme cette année, c'est un peu moins vrai que d'habitude, et que l'humidité provoque pas mal de maladies à champignons. Donc on a intérêt, lorsqu'on a des belles productions, à protéger ces plants en prévention plutôt que de le faire en curatif. Donc c'est-à-dire que la meilleure prévention, c'est par exemple du purin d'ortie, du purin de consoude, donc du purin d'ortie jusqu'au grosso modo le 15 mai, fin mai, puis après du purin de consoude, et éventuellement on peut rajouter dans cette préparation de macération fermentée du savon, soit du savon de Marseille, soit du savon noir. L'avantage, hein, on sait bien, on se lave les mains avant le repas, on se lave les mains au savon, c'est bien pour enlever les champignons et les bactéries qu'il y a. Et ben, si vous lavez vos fruits et les feuilles de vos arbres, et bien vous allez limiter le nombre de bactéries et de champignons, et donc ça va limiter le risque de maladie. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est comme ça. Maintenant que vous êtes l'attaque est là, la première chose à faire, c'est déjà d'enlever tous les fruits tachés. La deuxième chose, c'est d'empêcher qu'ils se retachent. Alors ça peut être tout simplement des pulvérisations d'eau savonneuse pour ce matin, par exemple. Hein, si le ciel est couvert avant qu'il ne pleuve, vous avez une petite fenêtre pour pouvoir faire ça. Et puis après, de penser à faire un apport de sarriette, hein, j'en parle régulièrement, d'huile essentielle de sarriette. Donc de sarriette, oui. Il faut compter 10 millilitres d'huile essentielle pour 15 litres d'eau. Donc, vous voyez, pour un seul abricotier, vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein, moi, je vous donne la proportion. On met donc 10 millilitres d'huile essentielle de sarriette. Vous le mélangez dans 10 millilitres d'huile de vinaigrette, hein, tournesol, colza, comme vous voulez. Et puis, vous mettez quelques gouttes de produit vaisselle bio de préférence ou de savon noir. Vous mélangez ça, ça vous fait une espèce de pâte un peu grisâtre, et vous le diluez après dans les 15 litres d'eau. Et vous faites, donc, si vous faites que 5 litres, vous pulvérisez et vous faites une pulvérisation tous les 8-10 jours en routine, et une systématiquement après chaque pluie, parce qu'il va y avoir
pluie.
Attendez, je n'ai pas compris.
Après chaque pluie,
d'accord. Pluie. Voilà. Très bien. Alors, la sarriette mélangée au savon noir et...
Et de l'huile de table, tout bêtement.
L'huile de table.
Voilà, l'huile de la vinaigrette.
Et ça, on peut le faire maintenant?
Ah, ça, vous pouvez le faire. Il faut le faire maintenant si vous voulez avoir quelques fruits à manger.
Ah, d'accord. Et est-ce qu'on peut les cueillir maintenant?
S'ils sont pas mûrs, non.
Non.
L'abricot se cueille mûr, hein. Si vous le cueillez vert, s'il est contaminé, de toute façon, il va continuer de pourrir.
D'accord.
Voilà, Christine.
Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Bon courage à vous et belle cueillette d'abricot.
Au revoir, à bientôt.
On se quitte quelques minutes puisqu'il est 9h moins le quart.
Jusqu'à 9h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions. 02 99 67 35 35.
L'essentiel de l'actualité, Brigitte Hugues, avec des routes où ça circule mieux.
Bison futé les classe encore en orange dans le sens des départs à la région Rhône-Alpes, mais le reste de la France est en vert. Hier, en revanche, ce fut bien chargé. Reportage à 9h le long de la Nationale 12, la voie express du Nord-Bretagne. Le compte pénibilité bientôt transformé. Le Premier ministre Édouard Philippe a proposé hier une nouvelle mouture rebaptisée compte de prévention. Seuls 6 critères de pénibilité sont retenus pour partir plus tôt à la retraite. Visite aujourd'hui de la ministre de la Défense, Florence Parly, et du Premier ministre australien à Naval Group à Cherbourg. La France et l'Australie ont signé en décembre un accord pour la construction de 12 sous-marins pour un total de 34 milliards d'euros. Deuxième victoire française sur le Tour de France hier aux Rousses avec Lilian Calmejane. Le Britannique Chris Froome est toujours en jaune. Aujourd'hui, c'est une étape très dure qui attend les coureurs entre Nantua dans le Jura et Chambéry dans les Alpes. 3 cols hors catégorie au programme.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins, c'est pas avec leurs promos travaux d'été qu'ils font percer. Et puis il y a la paire qui enfonce le clou niveau promo.
Jusqu'au 7 août, c'est l'opération travaux d'été chez la paire, avec par exemple jusqu'à 30% de remise sur une sélection de parois de douche.
Moins 30% sur les parois de douche. La paire, évidemment, il n'y en a pas deux.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr.
Jusqu'à 9h sur France Bleu Armorique. Notre expert jardin est là pour vous.
Vous pouvez poser vos questions donc à Philippe Munier au 02 99 67 35 35 et nous allons accueillir Jacqueline qui nous appelle de Loudéac. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour. Je voulais savoir ce qui arrivait à mon bougainvillier. Je l'ai rempoté au mois d'avril et il ne démarre pas. J'ai pas de feuilles, il y a encore un peu de sève à l'intérieur parce que je casse les feuilles. Les tiges, et j'ai pas de feuilles du tout, il n'a pas l'air d'être en bonne santé.
Il est en grève peut-être, il boude, que se passe-t-il Philippe?
Quand vous l'avez repoté, il avait toujours pas de feuilles?
Ah non.
Et il était à l'extérieur ou à l'intérieur?
Ah non, il était dans mon sous-sol. Quand il a fait beau, là je m'en suis occupée, d'autant plus que l'année dernière j'avais trouvé que mon pot était un peu petit. Mais il faisait 50-70 cm.
Et le coup du sous-sol, vous lui faites ça tous les ans?
Comment?
Le coup du sous-sol, vous lui faites ça tous les ans?
Ben oui, il faut que je le ramasse. Je vais pas le laisser dehors.
Non, d'accord, mais c'est le sous-sol qui me pose question. Parce qu'en fait, est-ce que vous l'avez arrosé? Est-ce que vous l'avez suivi un petit peu pendant l'hiver ou pas?
Pendant l'hiver, une fois ou deux. Normalement, c'est ce que vous conseillez d'habitude, de ne pas l'arroser trop.
Non, pas trop, mais il y a une différence entre le laisser avoir soif et le laisser mourir de soif. J'ai un petit peu peur que ce soit ça qui lui soit arrivé. Hein, c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet. Si maintenant il n'a pas redémarré, je crains qu'il ne soit fichu. Il faut faire vraiment attention, hein. C'est quand même une plante qui est une plante tropicale, donc qui a besoin de beaucoup de chaleur et de beaucoup d'eau. Même si l'hiver on le met au repos, il a besoin de beaucoup moins d'eau, mais par contre il ne faut pas le laisser mourir de soif. Et j'ai un petit peu peur, alors soit dans le sous-sol il a fait froid, soit au contraire, votre sous-sol il y a la chaudière et là l'air est très chaud, chaud et sec. Et si c'est le cas, il faut arroser plus parce que effectivement, s'il y a la chaudière qui tourne tout l'hiver, bah, ça dessèche l'air et donc la plante risque de dessécher. Donc il faut vraiment toujours s'adapter.
Bon, il aurait fallu que je lui donne un peu à boire au moins tous les 15 jours, 3 semaines, quoi.
Oui, 3 semaines, un mois même, mais voilà, pas deux fois dans l'hiver, quoi. Ça fait pas beaucoup. Ouais.
Bon.
Et puis l'idéal, c'est plutôt de le mettre dans une pièce froide plutôt que dans le sous-sol, parce que dans une pièce, il y a quand même de la lumière et ça lui permet de quand même mieux se passer son hiver que dans une pièce sombre.
Oui, bon. Là, le rempoter à nouveau, le défaire, rien du tout, non, c'est pas la peine que...
Ce que vous pouvez tenter, hein, c'est vraiment la solution de la dernière chance, c'est de le tailler très sévère. hein, vraiment très très sévère, et puis vous l'arrosez une bonne fois et après vous n'y touchez plus, juste après la taille vous l'arrosez une bonne fois, sans engrais évidemment, et vous n'y touchez plus, vous le mettez plutôt au nord-ouest, à l'extérieur, et puis vous attendez de voir ce qui se passe, mais je suis quand même un petit peu perplexe.
Ah, d'accord. Surtout. Non, bah, je vais quand même tenter le coup. Ça ne coûte pas grand-chose.
Ça vous coûte rien, donc tentez le coup. Ouais. Il y a peut-être une chance.
Voilà, Jacqueline.
Bon, bah, c'est une leçon maintenant. Il faudra que, quand moi je bois, il faut que je lui donne à boire aussi.
Bah, voilà.
C'est ça, voilà.
Merci beaucoup. Bon dimanche.
Mais pas du
merci.
Morito, il n'aime pas ça.
À très bientôt. Au revoir, Jacqueline. Bon dimanche également. Patrick nous appelle de Malensac. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour. À vous deux.
Bonjour.
Voilà ma question. On nous a donné un citronnier que j'ai taillé peut-être un peu trop sévèrement. Au début des gelées, je ne l'ai pas couvert, je ne l'ai couvert qu'après. Et j'ai bien cru qu'il allait passer l'arme à gauche. Et puis, depuis 2 mois à peu près, j'ai des rejets, des pousses qui se font à la base et au-dessus de la greffe. Et j'aurais aimé savoir si je dois supprimer les pousses qui sont en dessous de la greffe pour fortifier les autres ou non.
Ah bah oui, absolument. Si vous laissez le porte-greffe qui en général est soit une agrume avec des fruits inintéressants, si c'est intéressant, un poncirus, c'est-à-dire une agrume d'origine chinoise qui est très bien au gel sous nos climats, mais qui fait des fruits non comestibles ou très peu intéressants là aussi. Si vous voulez donc avoir des citrons, il faut que tout ce que émet le porte-greffe, vous le supprimiez pour ne garder que ce qu'il y a au-dessus de la greffe. C'est très très important.
D'accord, parce que là, ça prend des proportions.
Les porte-greffes sont toujours choisis pour leur puissance, parce qu'ils donnent justement de la vigueur à la greffe. Donc si vous laissez cette puissance se développer, ils vont éjecter la greffe, c'est tout ce qui va se passer.
Et alors par endroit, on a le tronc l'écorce qui se décolle. Donc je pense que ça doit repousser.
Oui, en général, oui. Sur les agrumes, il y a relativement peu de problèmes, ça cicatrise très très bien. Par contre, il ne faudrait pas que ça perdure parce que les décollements d'écorce, dans certains cas, ça indique un mauvais état de la plante.
Ah oui, d'accord. Bon, je vais déjà couper les rejets, là, tout ça.
Coupez-les, voilà. Alors, sécateur parfaitement, ou cutter dégraissé si c'était une lame neuve, et sécateur parfaitement affûté, parfaitement désinfecté dans tous les cas.
D'accord, ok. Bien. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.
Bon dimanche, Patrick.
Merci,
à très bientôt, au revoir. Philippe, merci beaucoup pour tous vos conseils. Là, on n'a rien de spécial à faire. Là,
Je peux juste vous donner une petite info. C'est que nouveau guide Ulmer pour son potager et son verger avec la lune, donc pour 2018, est sorti. Alors, vous savez, mon amour pour la lune, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a des gens qui suivent. Et c'est à la limite, quand on suit pas à pas, on est sûr de rien oublier et de penser à tout. Et puis, l'avantage de ce petit guide de chez Ulmer, c'est qu'il est plein de conseils très intelligents, très astucieux sur la culture au naturel. Donc rien que pour ça, je vous conseille de lire. C'est donc chez Ulmer, ça s'appelle « Faire son potager et son verger avec la lune 2018 », évidemment. C'est le guide de la biodynamie et ça vous coûte 12,90 €.
Eh bien, merci beaucoup Philippe. On se retrouve dimanche prochain.
Avec plaisir.
Au revoir, bon dimanche.